RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Anne Corpet.
Bienvenue dans le journal en français facile, présenté ce soir avec Mehdi Medev. Bonsoir.
Bonsoir Anne Corpet, bonsoir à tous.
La Commission européenne veut arrêter les importations de pétrole russe, mais il y a des résistances au sein de l'Union. La présidente de la Commission reconnaît que la mesure ne sera sans doute pas mise en place lors du prochain Conseil européen.
Des primaires aujourd'hui dans plusieurs États américains en vue des élections de mi-mandat. On ira en Géorgie, un État clé.
En France, le patron d'un groupe d'assurance est en prison. Il est mis en examen pour viol de mineurs et trafic d'êtres humains.
L'Ukraine à l'honneur au Festival de Cannes. Le dernier long métrage du cinéaste ukrainien Sergueï Loznitsa a été présenté hors compétition.
Le journal en français facile.
En Ukraine, l'armée russe à l'assaut de la ville de Sievierodonetsk.
La ville est quasiment encerclée. La prise de Sievierodonetsk permettrait à Moscou de contrôler toute la province de Lugansk dans le Donbass. C'est l'un des objectifs affichés par le Kremlin. Les forces ukrainiennes résistent depuis des semaines, mais les bombardements s'intensifient. Ils détruisent tout simplement la ville, a déclaré le gouverneur de la région.
Pendant que les troupes se battent en Ukraine, la répression continue en Russie.
Un tribunal de Moscou a ordonné ce mardi l'arrestation de deux blogueurs accusés de discréditer l'action de l'armée en Ukraine. L'opposant Alexei Navalny va lui devoir passer 9 ans en camp de prisonnier. La peine a été confirmée aujourd'hui lors de son procès en appel. Alexei Navalny comparaissait détenu. Il a profité de l'audience pour dénoncer, je cite, « une guerre fondée sur un super mensonge ».
Les membres de l'Union européenne discutent toujours la mise en place d'un embargo sur le pétrole russe.
Mais Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a reconnu aujourd'hui à Davos que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ne réussiront sans doute pas à trouver un accord sur ce sujet lors de la réunion extraordinaire du Conseil européen. Elle est prévue les 30 et 31 mai. La présidente de la Commission a appelé les dirigeants à agir pour éviter la crise alimentaire que pourrait provoquer l'invasion russe de l'Ukraine. On écoute Ursula von der Leyen au micro d'Oriane Verdier.
Our answer is and must be.
Notre réponse doit être une plus grande coopération et un plus grand soutien au niveau européen et international. Tout d'abord, l'Europe travaille dur pour réussir à faire sortir d'Ukraine les cargaisons de céréales bloquées par la marine russe. Deuxièmement, nous avons augmenté notre propre production pour alléger la pression sur le marché alimentaire mondial. Troisièmement, nous aidons le continent africain à être moins dépendant de ses importations alimentaires. Il y a seulement 50 ans, l'Afrique était autosuffisante. Une initiative pour développer la production alimentaire de l'Afrique est donc indispensable pour renforcer la résilience du continent. Le défi est d'adapter l'agriculture à une époque plus chaude et plus sèche. Les technologies innovantes sont donc cruciales. Les entreprises dans le monde entier sont déjà en train de tester des solutions technologiques pour une agriculture intelligente face au climat.
High-tech solutions for climate smart agriculture.
Ursula von der Leyen. On vote ce mardi aux États-Unis dans le cadre de primaires dans plusieurs États.
Il s'agit de choisir les candidats qui représenteront les partis démocrates et républicains aux élections de mi-mandat en novembre prochain. L'un des États clés de ce scrutin sera la Géorgie. Un siège de gouverneur et de sénateur sont en jeu, mais aussi une multitude de mandats locaux. En 2020, l'État avait basculé dans le camp démocrate à la présidentielle, une première depuis 60 ans. Cette primaire est un moyen de remobiliser des électeurs parfois déçus de la politique de Joe Biden, notamment au sein de la communauté afro-américaine, très importante à Atlanta et dans ses banlieues. Reportage de Marie Normand.
Le bureau de vote est installé au sous-sol de l'église baptiste Greater Bethany. Le révérend L.K. Pendleton pilote une équipe de pasteurs du New Georgia Project, une organisation qui se bat pour l'accès au droit de vote. Elle est venue s'assurer que tout le monde peut bien exercer son droit dans ce quartier majoritairement afro-américain.
Mes ancêtres sont morts pour que nous, afro-américains, ayons le droit de vote. Et aujourd'hui, notre vote est empêché.
Dans le collimateur de plusieurs organisations, les nouvelles lois électorales de Géorgie, moins de bureaux de vote, moins de temps pour voter et un redécoupage des circonscriptions qui, selon elle, fait barrage au vote des minorités.
Les gens se découragent et quand tu es frustré, tu ne reviens pas voter.
L'administration républicaine de Géorgie balaie ces accusations et rappelle que le vote par anticipation a connu ces derniers jours des niveaux records. Evan vient de garer sa voiture sur le parking de l'église, impossible pour lui de manquer ce rendez-vous.
Ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir des candidats qui me ressemblent. Je suis afro-américain, si on n'a pas de gens qui me ressemblent au pouvoir, ils ne se soucieront pas de nos problèmes.
Evan votera démocrate au mois de novembre, mais le parti républicain compte lui aussi de nombreux candidats afro-américains. Marie Normand, Atlanta, RFI.
Les dirigeants des États-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde s'inquiètent de l'activité militaire de la Chine en Asie-Pacifique.
Réunis en sommet ce mardi à Tokyo, les dirigeants de ces quatre pays ont mis en garde Pékin contre tout changement par la force dans la région. Ils ont dénoncé la militarisation de secteurs contestés. Le jour même de ce sommet, des bombardiers chinois et russes ont volé ensemble à proximité du Japon. Un avion de reconnaissance russe a survolé la zone située au nord de l'île d'Hokkaido. Le ministre japonais de la Défense a parlé de provocation de Pékin et de Moscou.
En France, la démission du patron du groupe d'assurance Assu 2000. Il est en prison depuis samedi dernier pour traite des êtres humains et viol sur mineurs.
Jacques Boutier, 75 ans, est soupçonné d'avoir violé une jeune femme pendant plusieurs années en échange d'un logement. 5 autres suspects, dont 2 employés de l'entreprise, ont été mis en examen et jetés en prison en même temps que lui. L'affaire révélée ce mardi a éclaté en mars dernier lorsque la victime s'est présentée à la police parisienne. Marie Casadebé.
La jeune femme de 22 ans explique aux agents que depuis 5 ans, elle est prisonnière d'un homme richissime qui la loge dans un appartement en échange de relations sexuelles. Elle désigne Jacques Boutier. Le PDG aurait, toujours selon ses dires, estimé qu'elle était devenue trop âgée. Il l'aurait forcée à trouver une remplaçante, une adolescente de 14 ans qui prend alors sa place dans le logement. La plaignante serait parvenue à filmer le patron et la mineure ensemble dans un lit et aurait confié la vidéo aux enquêteurs. Dans cette affaire, les 6 accusés sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement, car le patron du groupe Assu 2000 est soupçonné d'avoir tenté de mettre sur pied une équipe pour enlever la jeune femme de 22 ans, récupérer la vidéo et l'a poussé à quitter la France. Pour cela, il aurait sollicité l'aide de son épouse, de 2 employés de son entreprise ou encore d'un ancien gendarme de l'unité d'élite du GIGN. Tous ont été incarcérés samedi dernier. Selon nos confrères de la radio privée RTL, au moins 7 jeunes femmes mineures et majeures se seraient succédées dans l'appartement loué par Jacques Boutier. Ce dernier aurait évoqué un piège pour le faire chanter lors de sa garde à vue.
L'Ukraine au Festival de Cannes.
Naturel de la destruction, film de Sergueï Losnitsa a été présenté aujourd'hui. Isabelle Chenu.
L'histoire naturelle de la destruction est un documentaire, un montage d'images d'archives en noir et blanc dépourvu de commentaires, soutenu par un bruitage continu de ce qui se passe à l'écran. Il évoque la Seconde Guerre mondiale sous l'angle des raids aériens alliés contre les villes allemandes presque entièrement rasées sous l'ampleur de la déflagration. Si le film débute sur des images de l'Allemagne en paix, avant-guerre, la suite n'est qu'un déluge de feu vu du ciel. Largage continu de bombes, ruines, usines en flammes, morts sortis des décombres, civils hagards, paysages de dévastation. On y voit brièvement le Premier ministre britannique Winston Churchill expliquer qu'il n'y aura pas d'autre choix que vaincre ou mourir. Sergueï Losnitsa est un cinéaste ukrainien vivant en Allemagne. Il avait commencé son film avant le début de la guerre, lancé par les Russes en Ukraine. Au-delà de l'écho qu'il génère aujourd'hui, ce documentaire dénonce plus largement l'incroyable capacité de destruction de l'espèce humaine. Isabelle Chenu, Julien Boileau, Cannes, RFI.
C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à Fabrice Violet pour la réalisation.
petit message aux artistes africains.